Non seulement est-ce que nous nous souvenons de la croix de Christ pour la scène, mais en plus, ces derniers temps, nous avons une série de prédications sur la croix de Christ. Et donc, basée sur cette parole de Paul qui dit « Nous, nous prêchons Christ crucifié et nous ne voulons jamais cesser. » C'est peut-être pas beau comme image, mais d'un autre côté, c'est magnifique comme image parce que c'est rempli de sens, parce que c'est... Nous, on donne des fleurs pour dire combien nous aimons. Dieu a donné son Fils pour nous dire combien il nous aimait. Et donc, le titre de notre étude ce matin, c'est « Mort afin que nous vivions ensemble avec lui ». Et ceci est tiré aussi d'un passage, donc 1 Thessaloniciens, je vous invite à ouvrir vos Bibles, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et les versets qui nous intéressent surtout sont les versets 9 et 10, mais je vais commencer la lecture déjà au verset 1. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, même 11. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, nous sommes sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Et voilà le verset, les versets qui nous intéressent ce matin. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Je relis les versets 9 et 10, dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Donc une autre raison pour laquelle Christ est mort, c'est pour que nous puissions vivre ensemble. Pour que nous puissions vivre ensemble dans la gloire, et bien sûr, il fallait régler la question du péché. Et donc cet aspect-là aussi est inclus dans la croix, et comme nous l'avons déjà vu. Et vous savez, dans notre société, nombreux sont ceux qui, sans le dire, vivent selon le principe de « mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Ce mode de pensée convient peut-être à notre chat de compagnie, mais comment est-ce que des êtres humains, avec un potentiel, le potentiel qu'ils ont, et cette capacité de réflexion que l'être humain a, comment est-ce qu'ils peuvent réduire son existence à cela, hein? Et pourtant, le monde autour de nous essaye de le faire. Ils ont cette idée que, eh bien, à la mort, ben ça s'éteint comme la bougie s'éteint, puis la fumée petit à petit disparaît, et pour beaucoup même, elle disparaît de la mémoire des autres. Mais peut-être ils espèrent que c'est comme ça. Parce que si c'est comme ça, bien alors je ne suis plus responsable, je peux faire ce que je veux. Mais sont-ils sûrs? Et ils ont le roi Salomon a médité sur le sujet et il a eu une réflexion parmi ses nombreuses réflexions, hein, entre ce qu'on lit dans le livre des Proverbes, comme vous le faites, et comme ce qu'on lit dans l'Ecclésiaste. Eh bien, il a eu beaucoup de réflexions et il dit par rapport à cela, et je le cite, donc Ecclésiaste 5, 9 à 11. Il dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il dit, voilà, et notre monde, notre société est tellement matérialiste qu'il court après cela, mais finalement ça n'apporte rien. On s'épuise à ramasser, à avoir de quoi se garantir une bonne retraite, et on a des assurances, et c'est fou ce qu'on dépense et ce qu'on fait pour pouvoir se garantir une belle fin de vie, alors qu'il n'y a rien qui le garantisse. Et puis, voilà. Il dit, ceux qui en ont, ils dorment mal. Et ceux qui n'en ont pas, mais parce qu'ils ont travaillé, ben, ils dorment qu'ils en aient ou pas. Il a dit, je vois ça autour de moi, puis ça n'a pas de sens, c'est vanité. Et c'est vrai que si notre vie se réduit à cela, et si on a aucune espérance après la mort, eh bien, pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi faire tant d'efforts? Qu'est-ce qui me motive? N'est-ce pas bien plus motivant de croire que notre existence a réellement un sens et que ce que nous faisons, c'est fait pour durer, hein, c'est, vous savez, entre parenthèses, vous ne pourrez pas retrouver grand-chose de ce que vous avez sur la terre, vous ne pouvez pas trouver au ciel. La seule chose, c'est retrouver vos enfants, s'ils sont dans le Seigneur, retrouver vos parents, s'ils sont dans le Seigneur. Il n'y a que ceux qui sont dans le Seigneur qu'on peut retrouver après la mort. Sinon, tout le reste restera. Et c'est sérieux, mais c'est extraordinaire en même temps. Et donc, pourquoi ne pas se concentrer sur ce qui va demeurer, ce qu'on pourra retrouver, plutôt que ce qui va se perdre? Vous savez, lorsque, ici on est bien placé à Fréjus, hein, on a des ruines romaines. Et la première impression qu'on a quand on regarde ces ruines romaines, c'est qu'on a cette impression que là où ils passaient, ils avaient l'intention de rester. Parce qu'ils ne construisaient pas du préfabriqué, hein, c'était du solide. Parce qu'ils avaient des projets. Et nous, si nous avons des projets de longue durée, qui vont jusque dans l'éternité, ça devrait affecter la manière dont nous faisons les choses. Nos valeurs, ce dans quoi on va s'investir, hein, les Romains, ils ont dû trouver une bonne formule du ciment. Sinon, toutes leurs bonnes idées, ça n'aurait pas été. Et nous, est-ce que nous avons vraiment, nous travaillons vers un projet de longue durée? Est-ce que j'y crois? Ou est-ce que je vis au jour le jour? En vue de quoi vivons-nous? Nous, en tant que chrétiens, donnons-nous l'impression de croire à une félicité éternelle? Est-ce que les gens qui sont avec nous disent, mais ces gens-là, ils ne vivent pas uniquement pour une belle retraite ou pour un bon souper le soir, mais ils prévoient beaucoup plus loin. Ils voient beaucoup plus loin. Ils construisent pour quelque chose de permanent. Est-ce que cette conviction de notre foi, notre croyance, la félicité éternelle, eh bien, est-ce qu'elle transparaît comme elle transparaît dans les ruines romaines, leur désir de permanence? Est-ce que nos vies montrent cela? Et vous savez, l'Évangile de Christ, eh bien, nous apporte une réalité et nous parle de la présence du péché. Et j'ai trouvé une belle illustration. Cette semaine, je lisais, et il a dit, vous savez, s'il y avait un révélateur qu'on pouvait mettre dans l'être humain pour révéler la présence du péché, et supposons que ça prenne la couleur bleue, c'est un produit qu'on met, puis ça révèle, hein, vous avez tous fait un peu de chimie. et que ça passe en bleu, eh bien, vous savez, on serait tous des schtroumpfs. C'est exactement ça, c'est la réalité. Hein. Et c'est là, et Dieu l'a vu, et Dieu l'a su, hein, et il a pris des mesures nécessaires. Et il était tellement convaincu de notre situation et convaincu de sa réponse à notre situation qu'il était prêt à aller à la croix. Vous savez, il faut être sûr, hein, souvent pour un peu vraiment affirmer quelque chose, on entend des fois cette expression, ben, je mets ma main dans le feu. Voilà, je suis prêt à sacrifier ma main, tellement je suis sûr. Mais Jésus, ce n'était pas seulement la main dans le feu, c'était tout son corps, tout son être, tellement il était convaincu. Et parce que il était convaincu, parce que c'est vrai, eh bien, il était convaincu que ce sang nous purifie de tout péché. Il nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, il nous dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie, c'est-à-dire, vous connaissez le sens de l'indicatif en français, nous purifie, c'est-à-dire constamment, régulièrement, hein, nous purifie de tout péché. Hein, quand je dis que la rivière coule, ça veut dire que hier elle coulait, aujourd'hui elle coule et demain elle coulera encore. Et quand on dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, c'est que le sang de Jésus purifiait du péché hier, il purifie encore aujourd'hui et il purifiera demain. Hein, donc le sang de Jésus nous purifie de tout péché, c'est du présent d'indicatif et c'est puissant comme pensée. Et ce n'est pas, et souvent on dit oui, ben je veux, oui, il faudrait que j'aille à l'église et que je sois baptisé, ceci, parce que bon, c'est pour échapper à l'enfer. Non, c'est pas pour ça, c'est pas le seul objectif que Jésus avait, c'est de nous faire échapper à l'enfer. Ça aussi, mais pour lui, son objectif était bien plus positif que cela. C'était pas seulement pour empêcher quelqu'un, préserver de quelque chose, mais c'était pour nous offrir quelque chose. Et c'était, il est mort sur la croix, c'est pour nous donner les moyens de vivre pour lui. On l'avait déjà vu là, il y a le dernier dimanche de juillet, il est mort sur la croix, c'est pour que nous vivions pour lui. Et aujourd'hui nous voyons, il est mort sur la croix, c'est pour que nous vivions avec lui. Et c'était son désir. Et c'était pour cela qu'il est mort. Et Jésus croyait vraiment à cette nouvelle alliance qu'il a inaugurée, dont nous parlons, et il croyait vraiment que nous serons dans la présence de Dieu. Il parle de cette vie dans la gloire. Déjà, les patriarches de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ils croyaient déjà, hein, il nous dit dans Hébreux chapitre 11, il nous dit qu'ils marchaient par la foi, ils n'ont jamais vu la cité, mais par la foi ils l'ont vue. Ils y croyaient, et ils en savaient bien moins que nous. Et eux, ils étaient en deçà de la croix de Christ. Et Jésus y croyait aussi, hein, parce qu'il a dit, il nous dit dans Hébreux 12, verset 2, il dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée. » Il y croyait, il savait, il pouvait endurer la croix. Pourquoi ? Parce qu'il voyait quelque chose au-delà de la croix. Et ce qu'il voyait au-delà de la croix lui apportait beaucoup de joie. Parce que déjà, il voyait cette masse de gens, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, rassemblés dans la gloire, adorant le Seigneur. Et lui, quand il voyait ça, eh bien, les clous, la lance, la couronne d'épines, le rejet des hommes, l'absence des disciples autour de lui, il a pu l'endurer. Vous savez, la bonne espérance du chrétien est fondée sur trois piliers, entre autres. Nous croyons que en ce fait d'être dans la présence du Seigneur un jour, eh bien, premièrement, parce que Jésus a laissé une promesse avec ses disciples. Vous vous souvenez, on connaît tellement bien ce passage dans Jean 14. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et moi, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez, vous n'avez pas besoin de connaître ni le grec ni l'hébreu pour comprendre ça. Il n'y a pas 36 manières de comprendre ce qu'il a dit aux disciples. Ça veut dire, il y a une place, c'est un endroit réel, j'y crois, j'y vais, et je reviens vous chercher pour vous emmener. Et quelqu'un peut nous dire, oui, mais bon, ça c'est pas vrai. Vous savez, celui qui dit que c'est pas vrai... Je dis que c'est lui qui a le fardeau d'apporter les preuves. Parce qu'il est en train de dire que Jésus est un menteur. Ah ben voilà, il faut pouvoir le prouver. Il y a des gens que c'est facile à dire. Ils disent, ouais, je ne crois pas, non, c'est pas vrai, c'est du n'importe quoi. Il dit, facilement, eh ben prouve-le. C'est toi qui fais l'accusation, prouve-le. C'est comme en justice, même la justice des hommes l'exige. Tu accuses quelqu'un, amène des preuves, sinon on ne peut pas le mettre en prison. C'est pas à lui de dire qu'il était pas là, c'est à vous de prouver qu'il était là. Et les gens, facilement comme ça, ils nous disent, ouais, la parole de Dieu, c'est du n'importe quoi, il ne l'a même pas lu. Et il dit, c'est des mensonges, c'est des histoires, c'est du n'importe. Il dit, mais prouve-le. Je suis en train de lire un livre et on essaye de nous dire que Christ n'est pas... Certaines religions disent que Christ n'est pas mort sur la croix. Ben, prouve-le, parce qu'il y a tout pour prouver qu'il est mort, réellement. C'était écrit, c'était rédigé par des gens qui étaient... Alors que les témoins étaient encore vivants. Ce n'est pas 400 ans après, quand il n'y avait plus de témoins, on rédige l'histoire de Jésus. Non, Jésus était encore... Le dernier livre du Nouveau Testament, en l'an 70, eh bien, il y avait encore des gens qui étaient témoins de la mort de Christ. On ne pouvait pas raconter n'importe quoi. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Il dit ça à ses disciples. Donc, ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Si je crois que Jésus-Christ est, comme il a dit, le chemin, la vérité et la vie, eh bien, il y a une place qui se prépare pour moi. Dans la gloire. La seconde colonne sur laquelle s'appuie cette espérance se trouve dans la prière du Seigneur pour ses disciples, dans Jean chapitre 17. Et dans sa prière, Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà. Il a prié devant ses disciples. Il a dit, moi, Père, moi je veux qu'il soit avec moi, là où je suis, et dans la gloire. Jésus y croyait. Nous les disciples, nous devons croire aussi. Il prépare une place. Et vous savez, en plus... Là, c'était une prière de Jésus. C'était pas seulement, il dit, bon, ben, j'espère que ça ira bien et que vous pourrez être dans la gloire avec moi. Ça serait super, tout ça. Entre nous, on parle comme ça. Mais Jésus, c'est pas comme ça. C'était du sérieux. C'était dans sa prière sacerdotale. Il priait comme un prêtre qui intercédait pour le bien de ses disciples. Et il nous dit dans Jean chapitre 11, Jésus disait, en s'adressant au sujet de Lazare, qui était dans la tombe, il dit, Père, je sais que tu écoutes, tu réponds à toutes mes prières. Et bien là, ben c'est une prière de Jésus aussi. Et donc, nous avons toutes les raisons de croire que cette prière-là est exaucée aussi. Que tous ceux qui sont à lui, eh bien, ils pourront être avec lui dans la gloire. Et la troisième colonne sur laquelle se repose notre espérance est le prix que Jésus a bien voulu payer pour que nous puissions avoir accès à la maison du Père. Et c'est cela basé sur ce passage qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens. Les disciples, les croyants, les nouveaux croyants de Thessalonique, ils passaient par une rude épreuve, la persécution. Certains avaient été mis à mort et donc ils étaient en train de se préoccuper. Ils disaient, mais nous peut-être, mais si, parce qu'ils avaient cette idée que Jésus allait revenir pendant leur vie. Mais ceux qui sont morts, alors, donc ils ont raté la chose, ils ont cru, puis ils sont morts pour la cause de Christ et ils meurent avant que Jésus-Christ revienne. Qu'en est-il d'eux? C'était un peu le souci là. Et l'apôtre Paul en parle dans le chapitre 4. Et ça fait pas de mal de le lire parce que c'est un bon rappel pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, il dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, parlant de ceux qui ont cru et qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc il y a ceux qui ont l'espérance et ceux qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont l'espérance, ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ n'ont pas l'espérance. C'est le monde se partage de cette manière-là. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi donc que Jésus ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui y serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Il a dit, ça, vous pouvez vous consoler avec ça parce que c'est du vrai, c'est du solide. Vous savez, des fois, les gens, ils essaient de vous consoler, mais avec des belles paroles, et ils ne peuvent même pas les garantir, ils savent même pas si c'est vrai. Combien de fois j'ai vu des gens enterrement, oh oui, bah, ils sont au paradis, ils sont partis au paradis, on n'en sait rien du tout, et tu ne crois même pas au paradis, tu le dis. On dit n'importe quoi. Mais là, il dit, consolez-vous, ça c'est du vrai, c'est du sûr. Si vous êtes en Jésus-Christ, que vous soyez physiquement mort ou que vous soyez vivant, ça ne change rien. Parce qu'il appellera d'abord les morts et ensuite les vivants et on se retrouvera dans les airs et partira avec le Seigneur. C'est quelle loi de la nature que... Pareil, lui, il va au-delà des lois de la nature. Et Jésus l'a prouvé, il est capable. Tout son ministère, il a enfreint des lois de la nature. Certaines fois, il les a respectées, il a marché comme nous, alors qu'il aurait pu à tout moment apparaître et disparaître. Et puis d'autres fois, eh bien, il avait des pouvoirs sur le vent, la mer, sur les poissons. Il n'y a pas de poissons, et puis tout d'un coup, il y a plein de poissons dans le filet. Pierre avait besoin d'une pièce pour payer une taxe. Ben, il a dit, va pêcher un poisson. Le premier poisson que tu prendras, il aura la pièce qu'il te faut. Ben, ça, qu'est-ce qui contrôle ça? Jésus a montré qu'il est capable. Il n'est pas obligé de respecter les lois de la nature. Il est au-dessus. Le concepteur de ces lois domine ces lois. Et donc, Jésus, et Paul dit aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il dit, et nous sommes toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Qu'est-ce qu'il entend dire? C'est le jour où je quitte le corps, je suis avec le Seigneur. Il n'y a pas d'étape intermédiaire, il n'y a pas d'endroit flou où on va aller purger un peu de nos péchés. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle de cela, de ce fameux purgatoire. C'est un fouet qu'on emploie pour maintenir les gens dans la peur. Mais ce n'est pas dans la Bible, hein. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait les choses. Il dit, Dieu, tu ne viens pas à moi parce que tu as peur, tu viens avec moi parce que tu m'aimes et parce que je t'aime. Et donc, il dit, être absent de corps, c'est être présent avec le Seigneur. Et c'est ça, c'est des paroles de consolation. Et bien sûr, cela, c'est, ça a à faire avec ceux qui sont dans le Seigneur. Et donc, bien sûr, il y a ce verset. Hein, donc, nous ne devons jamais oublier ce lien qui existe entre la mort de Christ et cette espérance. Hein, c'est le verset qu'on a lu au début, où il dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Quand il dit « ne nous a pas destinés à la colère », ça veut dire qu'il s'adresse à ses enfants dans la foi. Il dit c'est que normalement c'était la colère de Dieu. Mais il a dit mais vous, il vous a permis d'échapper à cela. C'est pas, il a pas parlé de néant. Après on part dans le néant comme une fumée dans le vent. Mais non, il a dit c'est normalement vous êtes sous la colère de Dieu et chez nous les hommes, le fait de dire que la colère, ça nous gêne. Hein, parce que chez les hommes, la colère, c'est toujours désagréable. Hein, et en général, c'est injuste, et c'est violent, et c'est ce qu'il y a de pire chez nous qui ressort quand il y a la colère. Hein, la colère fait ressortir ce qu'il y a tout au fond du cœur. Et donc, nous, on n'aime pas ce mot colère. Mais quand il s'agit de Dieu qui est en colère, ce n'est que de la justice. Et Dieu est juste et il applique cette justice et nous devons donc il dit vous ne êtes pas sous la colère mais vous êtes sous la grâce de Dieu et donc il dit car Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. L'acquisition du salut, c'est-à-dire qu'on l'obtient. C'est pas seulement on espère de l'avoir ou on le recherche, non. Acquisition. Quand j'ai acquis quelque chose, je le possède. Et il nous a destiné à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, non pas par nos propres œuvres, hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas par le moyen de la foi. Celui-là ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu qui n'y apporte rien. Tu le reçois seulement. Il dit donc, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, voilà, c'est basé sur la mort de Christ, qui est mort pour nous, soit que nous veillions, soit que nous dormions, et c'est là qu'il est en train de dire, c'est-à-dire soit que je sois vivant physiquement, ou soit que je sois mort physiquement, hein. Afin que nous vivions ensemble avec lui. Ensemble avec lui. Il y a toujours vous savez, Dieu, il ne connaît qu'un seul chiffre. 1. Pour lui, tout fait 1. Et peu importe, un mari, une femme, c'est 1. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est 1. L'ensemble des croyants, c'est 1. Tout est 1 chez Dieu. Hein, il pensait 1 avant l'informatique même. Mais... il dit, afin que nous soyons ensemble avec Christ. Ensemble, déjà, c'est pas mal. Hein? Nous, on arrive à faire ça ici sur Terre. On est ensemble, on passe des bons moments ensemble, c'est déjà pas mal. Mais ensemble avec Christ. Là où il est. Maintenant, nous disons, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, il est au milieu de vous. Comme si c'est nous qui y sommes, et puis lui, il vient. Mais viendra le jour où c'est lui qui y est, et c'est nous allons nous le rejoindre. Et ça, c'est la bonne espérance, la bienheureuse espérance. Et tout cela, c'est possible à cause de la croix. Et sans la croix, ça aurait été impossible. Donc, tous ceux, hein, dans un sens, la croix, c'est la porte du... Pour employer du langage ordinaire, hein, la croix, c'est la porte du paradis. Et ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas de croix, eh ben, ils sont en train de fermer la porte. Se fermer l'accès à la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que cela. Et c'est pour ça que nous devons avoir beaucoup de pitié et de, pour ces gens qui essayent d'y arriver sans la croix de Christ, sans placer leur foi en Jésus-Christ. Alors, certains portent le nom de Christ, d'autres prétendent, disent qu'il est prophète, d'autres disent oui, c'est un homme de bien, mais bon, sa mère, elle va l'influencer, nous allons un peu nous approcher de sa mère, comme ça elle pourra lui parler pour nous. Non, ça, la mère, elle ne peut rien, elle aussi, elle dépend de la croix de Christ. Et la destinée de l'homme n'est pas le néant, mais la colère, à moins que la grâce de Dieu intervienne. Et cette croix est bien pour nous, pour nous permettre d'avoir une sortie de la situation dans laquelle nous sommes, vers la présence de Dieu. Vous savez, si une mère aime être entourée de ses enfants, pourquoi Dieu, le Créateur, n'aimerait pas être entouré de ses enfants? L'amour d'une mère, avec toutes ses imperfections, eh bien, quand même, nous donne une idée de ce que le Créateur a mis dans son cœur, parce qu'il l'avait déjà lui. Hein, on peut pas mettre dans sa création ce que nous n'avons pas. Et Dieu a mis dans l'homme la capacité d'aimer. Pourquoi ? Parce que Dieu était déjà amour. Et s'il a mis dans l'homme, il l'a créé de manière qu'il soit social et qu'il aime être avec les autres, eh bien c'est parce que c'était déjà là. Et si nous trouvons la communion ensemble tellement agréable, c'est parce que ben Dieu, déjà, ses concepts étaient déjà chez lui. Et qu'il voulait à tout prix créer, recréer, rétablir cette communion avec lui. Celle qui a été perdue dans le jardin d'Éden, suite au péché, eh bien, il restaure, mais il restaure encore mieux. C'est pas seulement qu'il nous permet de retourner, parce qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin, c'est pas seulement qu'il nous permet de retourner dans le jardin, mais en plus il nous dit, mais vous venez chez moi, dans la gloire éternelle. Ici, nous avons dit tout au début, on a dit certains vivent selon ce principe, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, et c'était un peu ce que c'est Ésaïe qui l'a dit. Et dans le contexte, et je vous lis le verset du contexte, il nous dit, et voici de la gaieté, de la joie, on égorge des bœufs, on tue des brebis, on mange de la viande, on boit du vin, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Voilà le contexte, Ésaïe le prend. Mais dans l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, eh bien, lui, il nous le rappelle autrement. 1 Corinthiens 15, il nous dit, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. » Il dit, si Christ, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, tout ça, c'est du n'importe quoi. Et puis alors, il dit, allons faire comme les autres, ils ont raison. Mais si Christ est mort, et s'il est ressuscité, alors là, ce principe n'est plus valable. Et on ne peut pas vivre selon ce principe-là. Et la seule manière de vivre, c'est avec en vue de cette bonne espérance que Jésus-Christ a rendue possible. La croix est le symbole de notre rachat, du sacrifice d'expiation pour nos péchés. Mais la croix aussi est le symbole de notre espérance. Parce que sans la croix, eh bien, je n'ai rien. Si Christ est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés, mais il n'avait rien prévu pour moi après, mais alors, ça sert à quoi? Ouais, je ne vais pas en enfer, mais il n'a rien prévu pour moi. On est comme ça en suspens. C'est du mauvais travail, hein. Dieu n'est pas comme ça. Déjà chez les hommes, on ne l'apprécie pas. Il avait un projet, il a préparé quelque chose pour nous. Vous savez ce que Jésus a dit à ce larron sur la croix qui s'est tourné vers lui? Il a dit, Jésus, je vois que tu n'es pas comme nous, toi. Tu n'es pas la même catégorie. Écoute, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Vous savez ce que Jésus a répondu? Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus y croyait. Et Jésus l'a promis à cet homme-là. Et il nous le promet aussi. C'est une réalité. Et vous savez, supposons que l'un d'entre vous ait le projet de quitter la France et d'aller s'établir en Australie, par exemple. Eh bien, vous ne pourrez plus continuer à vivre comme vous vivez. Il faut commencer à changer. On commence à, bon, je vais commencer à vider la maison, je commence à vendre ce que je ne veux pas, je vais commencer, déjà je commence à, je continue pas à acheter une maison, je continue pas à construire, tout ça, non, c'est, moi je vais, ça y est, je pars pour l'Australie. C'est-à-dire, ça va, mon projet de partir en Australie va commencer à affecter toutes mes décisions d'aujourd'hui. Et en plus, je vais, les gens disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben moi je pars en Australie, hein, moi je déménage. Ben alors, si je crois qu'un jour je serai dans la gloire, vous ne croyez pas que ça devrait influencer notre manière de faire? Il dit, tu dis que tu vas au ciel et puis tu travailles comme si ça n'existait pas. Tu n'en parles jamais. Tous tes projets n'ont rien à faire avec le ciel. Et tu dis que tu vas au ciel. Non, non. Si tu y crois, tu vas le vivre. Ça va transparaître. J'écoutais le témoignage d'un frère... cette semaine, là, il est du Luxembourg et bon, il avait été enfant de cœur jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait toutes les belles choses, hein, tout ce qu'il y avait de meilleur que ses parents pouvaient lui offrir. Puis il a dit, mais bon, moi après je suis parti, je m'éclatais dans le monde. Et puis il a dit, je suis parti au Canada et un jour je me trouve dans un endroit. Et je vois cette jeune fille là, et avec une autre, ils sont en train de parler. Je dis, mais il y a quelque chose, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Il a dit, j'ai vu ça, je savais qu'ils avaient quelque chose. Moi, je cherchais par tous les moyens de trouver quelque chose qui répondait à mon besoin, et j'ai vu qu'eux, elles l'avaient. Il a dit, j'ai adressé la parole. Et ils m'ont parlé de la foi, ils m'ont parlé de l'évangile, tout ça. Il a dit, bon, ça. Après, je laissais tomber, mais un an plus tard. Par un autre moyen, le Seigneur encore lui parle. Et après avoir été à fond dans le New Age, eh bien, le Seigneur l'a délivré. Et là, il vit autrement. Et il a une autre vie. Et vous savez, c'est si j'ai vraiment rencontré le Seigneur, ça change quelque chose dans ma vie. Et c'est tellement vrai que ça apparaît. Je connaissais un frère marocain qui essayait d'être un croyant secret, donc ne dire à personne. Mais il m'a dit, un jour, j'étais en train d'essayer d'expliquer l'histoire islamique à mes amis, et puis il y en a un qui m'a arrêté, il m'a dit, toi, tu es un chrétien, toi. Il essayait de faire ça de manière... Mais il a dit, non, non, toi, tu es un chrétien. Tu ne dis pas les choses de la même manière. Et il a dit, c'est ça, si c'est là... Ça transparaît. On ne peut pas le cacher éternellement. Est-ce que, pourquoi serait-ce vrai que notre départ vers le ciel influe dans ma vie et mes valeurs présentes? Ne serait-ce pas vrai que mon départ vers le ciel influe sur la manière de me comporter vis-à-vis des autres par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je considère comme important? Ça doit marquer. Ça doit transparaître. Au point que les gens ne peuvent pas se tromper. Ils disent, toi, tu as quelque chose. Ils disent, pourquoi? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ça, il dit, c'est ce que j'ai de meilleur pour vous. Et vous savez, c'est tellement merveilleux qu'il n'a même pas essayé de nous décrire parce qu'on n'aurait rien compris. Mais je lui fais confiance. La dernière fois où il a créé quelque chose, c'était le jardin d'Éden. Et après pas mal de millénaires, c'est encore beau. Malgré tout ce que les hommes font pour qu'ils le détruisent. Hein. Même les inconvertis ne se rendent compte. Alors, et chaque fois que Dieu refait quelque chose, c'est encore plus glorieux que la première fois. Vous savez, je lui fais confiance. Puis finalement, soyons honnêtes. Qui est-ce qui nous propose autre chose? Hein, qui est-ce qui nous propose quelque chose de mieux? Il n'y a pas d'autres options. La seule option, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est mort. Parce qu'il est ressuscité. Et maintenant, je peux vivre pour lui. Je faisais du covoiturage hier en redescendant de l'Allemagne et je parlais avec ce jeune homme. C'est des Allemands russes qui sont revenus et il dit, ouais, je ne sais pas. J'entends, et... mais je ne sais pas. J'ai dit, la parole de Dieu, lis-la. N'écoute pas les religions, lis. Il y a la seule chose sûre, Jésus-Christ et l'Évangile. Lis ça et tu trouveras tout ce qu'il te faut. On s'aime et puis après le Seigneur continue son œuvre. Mais c'est tout ce que nous avons. Et je crois en Jésus parce que c'est la vérité. Parce que ça donne la paix dans le cœur, ça donne la joie. Ça me donne, je peux marcher avec la tête levée, parce que j'ai une espérance. Je vois au-delà de ce qui se passe, comme Jésus a pu voir au-delà de la croix. Et même, c'était une joie ce qu'il voyait. Et nous aussi. Que le Seigneur nous aide et que chaque jour, nous puissions vivre cette vérité. Jésus va revenir nous prendre afin que nous soyons là où il est. Et pour toujours. Peut-être que vous dites, oh ben, il y a peut-être des choses que je devrais changer, des valeurs que je devrais changer, changer mes priorités, tout ça. Peut-être le Seigneur vous a parlé de quelque chose. Et nous allons prendre quelques minutes de silence et pour que chacun, dans son cœur, puisse prier et dire, Seigneur, écoute, je prends ça sérieusement. Toi, tu étais sérieux et ça t'a coûté tellement cher. Que même pour cela, je vais prendre ça sérieusement. Et je voudrais vivre autrement pour toi. Je vous donne un moment de silence, puis ensuite, je prierai.